Oui, alors qu'est-ce qu'on peut faire ?
Pour aborder votre personnage,
oui.
Très complexe, Monsieur Solers, et le mouvement de vos livres, j'aimerais juxtaposer trois remarques. La première vise l'écriture, dont les possibilités, dites-vous, seraient celles d'un computer. Alors je vous cite à nouveau, un computer qui traite des zones de mémoire très étendues de l'histoire du langage humain. Je pense que c'est un peu l'expérience avec drame, nombre, loi, H, paradis. La deuxième remarque vise la parole. Et vous avez écrit un très beau texte à propos de Socrate. Et alors je vous cite à nouveau, dans Théorie des exceptions, Socrate s'obstine, il démontre que ça va plus loin si on continue à parler. Et je pense que c'est un peu la double expérience de l'oralité médiatique qui a lieu maintenant, et l'oralité qui engendre l'écriture, avec le deuxième solaire, si je puis dire, avec femme, le portrait du joueur et le cœur absolu. Alors la troisième remarque est davantage autobiographique. C'est une confidence que vous glissez à David Eman dans Vision à New York, et qui est la suivante. Ma famille est un peu particulière, puisqu'elle est constituée par deux frères qui ont épousé deux sœurs. Ils se sont mis à vivre dans deux maisons parfaitement symétriques. D'où peut-être chez vous l'expérience du dédoublement. Et vous dites plus loin, j'ai rêvé de la troisième maison. Et je reviens encore à ce très beau livre, Théorie des exceptions, comme par hasard, vous consacrez trois textes à trois lieux géographiques. L'île de Ré, Bordeaux et l'observatoire où nous sommes.
J'ai l'impression que nous sommes dans un temps dont tout le monde se plaint sous prétexte qu'il ne pourrait plus y avoir de pensée forte, cohérente, nouvelle. C'est comme si ça ne pensait plus. De là, on recherche les causes de cette absence de pensée. Et on les trouve vite dans la multiplication des moyens de communication, l'explosion des médias, la relativité générale qui s'est emparée de la parole qui est effacée jour après jour par un surcroît d'informations. Ça ne penserait plus parce que ça communiquerait constamment dans une sorte d'usure générale. La pensée aurait disparu. Il n'y aurait plus de philosophie capable de nous faire exister en même temps que nous-mêmes dans le monde où nous sommes entrés. Comme d'habitude, ce genre de dépression est le produit d'un aveuglement qui peut quand même, je crois, se laisser analyser assez rapidement. Moi, je pense que la forme de la pensée contemporaine consiste, et c'est pour ça qu'elle n'est pas souvent vue, dans une formidable réinterprétation de toutes les formes de pensée. Et que l'historien futur verra que cette vacuité apparente de la pensée dans le monde contemporain est en réalité un déplacement de la pensée se posant comme tâche et comme jeu la réinterprétation de toutes les formes de l'histoire de notre culture, de notre aventure. Et c'est la raison pour laquelle je crois que si on veut savoir ce qui se pense et ce qui se vit physiquement dans la pensée, il faut aller chercher du côté des gens qui, ont un point de vue complètement nouveau sur ce qu'on pourrait dire de l'Antiquité. Je réponds à votre première question. De l'Antiquité grecque, par exemple, ou bien de la Bible, de ce que c'est que cette histoire, avec les documents qui surgissent, des réinterprétations de toutes parts, de la Renaissance, pourquoi pas, de la musique. Parce que, par exemple, il y a 20 ans, 25 ans, on ne connaissait pas bien la musique baroque, de l'architecture, de la peinture. Et c'est pour ça que l'art est dans une position plus que jamais de révélateur, pas du tout pour annoncer, à mon avis, une nouvelle métaphysique, ou une nouvelle ère religieuse, comme le pensait Malraux, mais pour s'enfoncer de plus en plus dans la relativité générale que nous sentons quant à nos connaissances et quant à nos formes de perception. Alors, quand je dis que j'essaye de donner dans un certain type d'écriture une mémoire, ou la traversée d'une mémoire très longue, ça vaut aussi bien pour les essais critiques que pour les livres de fiction. Et j'essaye de montrer que lire un texte de Lucrèce, se demander qui était vraiment Socrate au moment où il meurt, ce que voulait dire exactement Cervantes, comme s'il le disait aujourd'hui, etc. C'est ça la tâche de la pensée. Il me semble que les œuvres principales, littéraires principales du XXe siècle, ont eu cet horizon comme presque extatique, enfin vertigineux, comme projet, que ce soit Proust, où la démarche est celle-là même du temps qu'il s'agit de réinterpréter, ou que ce soit Joyce, dont vous voyez la photo assez gaie ici même, photo souriante par Gisèle Freund, alors qu'on montre en général dans les photos qu'on publie de Joyce, un Joyce sinistre et assez compassé qui contemplerait son échec. Là, j'ai une photo d'un Joyce triomphant et très jeune, alors qu'il est à quelques mois de sa mort.